بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شيخ سير الإسلام Toutes les louanges reviennent à Allah Rabbul Izzah qui nous a permis ce soir de compléter quel juz ? Le 15e. Et dans le 15e, il y a le fameux verset qui marque la moitié du Coran. Et ce verset, c'est Wal yatalattaf. Et compléter la lecture ce soir par l'écoute istima' et la lecture de la sourate Al-Kahf, et qui tombe bien parce qu'on est la veille du vendredi, ce qui ne nous dispense pas de la lecture demain. Là, on a écouté l'imam, hein. Demain on lit, hein. C'est pas que voilà, c'est du temps gagné, non, subhanallah. Et si on n'avait pas notre mode de fonctionnement, on restait sur la thématique, subhanallah, on serait tenté d'aller un peu vers le tafsir, parce qu'il y a eu tellement de versets, enfin tous les versets sont magnifiques, hein. Chaque soirée a ses versets, mashallah, c'est la parole d'Allah. Mais juste avant d'aborder le thème de ce soir, on peut se permettre 5 minutes, parce que il y a dans la sourate, le premier quart du 15e juz, il y a deux versets qui sont juxtaposés à une page près, et je pense que ce sont deux versets qui nous concernent tous directement et qui mettent parfois en avant des manquements énormes qu'il y a dans notre vie, dans notre conception des choses. Un de ces versets, c'est « وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ». Et ce verset parle de quoi ? Aïwa, des parents, de la bienfaisance envers les parents. Avec le fameux verset, hein, où il y a « ouf », ça commence comment ? « فَلَا تَقُلْ لَهُمَا ouf ». Ouf, en français, on appelle ça un onomatopée. Ouf, c'est un bruit, ce n'est pas un mot en arabe aussi. Allah Rabbul Izzah, les mufassirs disent qu'Allah Rabbul Izzah utilise ouf. C'est peut-être le seul onomatopée, je pense, du Coran. Ouf n'est pas un mot, ça exprime un agacement. Pour montrer que quand il y a un conflit avec les parents, jamais, on a dit trois fois, hein, on avait dit quatre il y a quelques jours, jamais on ne doit montrer notre agacement. Alors ceux qui ont déjà perdu leurs parents, je pense qu'ils se disent que oui, c'est vrai, j'aurais dû, peut-être que je l'ai fait, peut-être que pas suffisamment. Et ceux qui ont des parents encore vivants, ben des fois je pense et je crains qu'on ne fasse pas suffisamment attention et qu'on ne prenne pas considération de l'importance de ce bienfait. Avoir un papa toujours de ce monde et une maman toujours de ce monde, subhanallah, au-delà de l'affection et de l'amour, hein, maternel, paternel, ça c'est humain. Là-dedans, il n'y a pas de religion, c'est vraiment l'amour qu'il y a entre les parents et les enfants et qui doit être mutuel, d'accord ? Il y a le fait que le paradis se trouve sous les pieds de la maman. Et concernant le père, qui me cite ? Tout le temps, on parle de la maman. C'est vrai, le prophète Sazam a cité la maman trois fois. Mais qui me cite un hadith concernant le père ? Le papa. Parmi les du'as, la turad, qui ne sont pas rejetés, c'est-à-dire parmi les du'as qui sont acceptés par Allah, le du'as d'un père pour son fils, pour son enfant. Le du'as qu'un papa a fait pour son enfant, c'est un du'as qui a un accès direct. Ça, c'est accepté directement. Ce qui veut dire que nous devons prendre considération de ses bienfaits tant qu'ils sont encore de ce monde. Parce que lorsqu'ils sont morts, lorsqu'on les aura enterrés, voilà mahal, c'est quelque chose qui arrivera. C'est soit toi qui enterres tes parents, soit les parents enterrent leurs enfants, ce qui arrive aussi, Allah seul le sait. Mais dans 98% des cas, ce sont les enfants qui enterrent les parents. De prendre conscience que, au-delà du fait qu'il n'y aura plus l'amour maternel et paternel, mais c'est comme si une porte du paradis s'était fermée définitivement. C'est-à-dire, de leur vivant, soit tu as pris cette porte
tu as eu accès à cette porte du Jannah ou tu t'en es privé? Alors certains vont dire que oui, mais je m'en suis privé, mais après il faut avoir de bons parents aussi. Oui, mais après, est-ce que tu as un bon enfant aussi? C'est une autre question. Souvent on voit que de l'autre côté. Mais c'est quoi la définition d'un bon parent? Il n'y a pas une définition précise. Du moment que c'est ton père et ta mère, khalas, hukman, selon le Coran, ils ont ses droits. Et je vous promets que même si des fois il y a des parents avec l'âge, avec les problèmes de santé, ils peuvent avoir un caractère un peu compliqué. Quels sont les problèmes de santé qui modifient l'humeur, hein, les personnes âgées, avec beaucoup de respect? Le diabète, l'hypertension. Vous avez déjà vu quelqu'un qui fait une hypoglycémie? Ben, viens pas mailler, hein. Quelqu'un qui est en hypoglycémie, qui a un taux de sucre qui baisse, il devient nerveux, il y a de la méchanceté, ça devient violent. Ben, tout ça, et ça c'est des, en général ça arrive dans la vieillesse, entre guillemets, c'est-à-dire un certain âge. Donc même si on a affaire à un papa ou une maman qui ont des problèmes de santé qui rejaillissent sur leur comportement, ou des fois qui ont des parents qui sont un peu plus complexes, un peu envahissants, on va dire, et qui ont un caractère, voilà, un peu spécial, qui nous mettent mal à l'aise. Et qui peuvent mettre même mal à l'aise la gestion de notre couple ou l'éducation de nos enfants. En général, on reste sur nos gardes quand il s'agit du couple et des enfants. On dit non, personne ne se mêle à ça, ça c'est... Il faut garder en tête ce verset. C'est-à-dire, il y a des fois où on peut être emporté, on a envie de prendre position et de rectifier les choses. Voilà, taqullahuma, ouf. Maintenant, on peut se dire les choses posément, correctement, respectueusement, si on veut fixer des limites. Après, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter non plus. Imaginez, hein, un cas comme ça, on a une belle-mère qui vient chez vous. La belle-mère, il regarde partout, il dit « Oui, mais la maison n'est pas en ordre, hein, c'est pas ça, c'est pas comme ça, et tout, et tout. » L'épouse du garçon, il va se dire que oui, mais c'est quoi ça? C'est l'inspection générale, c'est la DST, c'est quoi? Et ça, c'est ma maison, c'est ma gestion. D'un certain temps, il dit, écoute, si vous avez votre case, là, en ordre, votre garçon, votre garde, elle est votre case. Vous êtes marié pas avec moi, si vous estimez qu'il est macotte, qu'il est sale et tout. Ça peut aller très loin. Donc, il y a quand même des limites à fixer. S'il y a des choses, s'il y a trop de débordements, il y a des risques et tout, il faut se dire les choses, mais de façon respectueuse. Le dialogue est important. La base, c'est le dialogue. Et quand on ne dialogue plus, c'est là que c'est pas bon. Mais ce dialogue doit se faire dans le respect mutuel. Et en finalité, ne jamais penser que c'est un match ou une opposition entre moi et mes parents qui va avoir raison. En finalité, ils ont toujours raison. Considère qu'ils ont raison. Et toi, tu te dois de faire preuve de sobre en disant les choses, mais être patient pour Allah. C'est-à-dire casser un peu son ego, mettre de côté son envie de s'affirmer. S'affirmer, là, ça, tu vas faire au travail, ça. Avec tes collègues, tu peux t'affirmer. Dans ton cercle d'amis, tu peux t'affirmer. Mais face aux parents, c'est toujours la tête baissée. C'est toujours d'avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de respect. Non. Il y avait un hadith que j'allais citer là, mais ça ne me... Je suis passé à autre chose. Oui, justement. Alors, un indice. Mimbar. Ah, Ahmed. Ah, il y en a qui m'a dit trois fois aussi. Le Prophète est monté sur le mimbar. Amin, amin, amin. Et les sahaba étaient toujours attentifs. Ils observaient, ils regardaient, ils posaient des questions. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails et prendre trop de votre temps, mais ça montre également l'intelligence des sahaba et l'ouverture d'esprit. Bien sûr, on écoute, mais qu'on ne pose pas de questions. Poser une question, ce n'est pas un manque de respect. Poser une question, ce n'est pas un manque de respect. Ça ne veut pas dire que je mets en doute ce que tu as dit, ce que tu as fait. Non, j'aimerais comprendre. Et les sahaba pratiquaient avec la compréhension. Ça, c'est très important. Une pratique qui est basée sur la compréhension, ça s'appelle une pratique éclairée. Ça s'appelle une pratique convaincue. Et ça, c'est important. Donc on ferme cette parenthèse. Sahaba dit au prophète d'Allah, tu as fait quelque chose d'inhabituel. Tu as dit Amin, tu n'as jamais dit Amin en montant sur le mimbar. Pour ça, ma cité, on va aller un peu plus vite. Trois cas de figure, il y en a deux qui nous intéressent. Le Prophète a dit que cette personne qui vit, comme nous, un mois de Ramadan, mais qui n'obtient pas le pardon d'Allah, qu'il soit maudit. L'ange Jibril a maudit celui qui vit un mois de Ramadan, mais qui n'arrive pas à se faire pardonner. Qu'on comprenne que dans ce mois de Ramadan, il y a tellement de moyens de se faire pardonner que celui qui passe à travers, c'est que vraiment, il n'a pas essayé, il n'a pas fait le moindre effort. Et là, ça nous permet, on met une petite pause, analyse tes journées. Il ne faut pas que tes journées de Ramadan soient exactement comme les journées des autres mois, à la seule différence que tu ne manges pas et tu ne bois pas. Si c'est le cas, il n'y a pas... Ça, c'est pas bon, ça. Fais en sorte que tes journées de Ramadan se distinguent par tes cinq salats en jamaat, au premier rang, assidu, par lecture de Coran, istighfar, beaucoup de doua, l'aumône. Fais en sorte que c'est une journée qui est brillante, c'est une journée qui est vivante. D'accord? Donc, ça c'était une malédiction de l'ange Jibril. Et le Prophète a dit Amin. Alors franchement, c'est un sacré dossier là. Ça c'est un dossier, c'est effrayant. On a le meilleur des anges, Jibril. Et on a le meilleur des hommes, Muhammad alayhi afdalu salat wa tammu taslim. Donc c'est quelque chose, c'est puissant. Ça c'est pour le Ramadan, qu'Allah nous protège de passer à travers le Ramadan. Chers frères, je continue là, j'ouvre la parenthèse une fois de plus. Là on a parlé des journées, mais les nuits, ce qui serait triste et accablant, c'est qu'une personne passe une partie de la nuit devant la télé, comme tout le temps. Moi, je pose des questions aux élèves. Qui a regardé Chelsea contre Real? Malheureusement, il y a des élèves qui disent, on a regardé. Couché à quelle heure? 1h, 2h du matin. Et il baisse sa tête là-bas au fond à gauche. Je dis, mais chaque Ramadan, on ne peut pas se permettre de donner notre nuit pour le dunya. Parce que si quelqu'un se couche à 1h du matin, est-ce qu'il peut être debout à 3h? Il faut être un cyborg, il faut être vraiment un robot. Si tu te couches à 1h, tu ne peux pas être debout à 3h, même si on te réveille de force. Mais est-ce que tu arrives à prier? Non, tu vas dormir dans la salat, tu ne seras pas concentré. Pas maintenant, pas là, pas en ce moment, pas Ramadan, non. Si je regarde des matchs après, mais dans le mois de Ramadan, on respecte. Donc les nuits, on se réveille. Voilà, ce qui serait triste, c'est qu'une personne passe ses nuits de Ramadan comme des nuits normales, aadi, et il se réveille juste pour le repas du matin, le suhoor. On mange jusqu'à 5h08 en ce moment. Genre, il se réveille à 5h moins 5. Il dit, allez madame, il faut toutes les prêts. Hein. Et il se réveille juste, monsieur passe à table, il mange, et puis il va à la mosquée. Mais c'est pas comme ça que ça doit se passer. Le qiyamul layl est où? Dans les tiers de la nuit, il faut faire vivre ça. Allah Azza wa Jalla est attentif, écoute, accepte, choisit, pardonne, accorde, exauce. Et toi, tu ne donnes pas considération de ça? C'est-à-dire, faisons dua qu'Allah nous accepte pour qiyamul layl tout le chahr Ramadan. Qu'on ne rate pas un tahajjud. Ça, c'est tellement important. Et partager le temps de tahajjud, la prière, dua. Il faut faire dua dans le dernier tiers de la nuit. Khassatan dans le mois de Ramadan, ça on ne peut pas. C'est un trésor, ça. On ne peut pas laisser ça passer. Et istighfar. Parce qu'Allah demande hal min mustaghfirin fa'aghfira. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent pardon? Et Dieu seul sait si on a des péchés à se faire pardonner, oui ou non. Subhanallah. S'il y a bien une génération qui a des péchés, c'est bien nous, Allah Akbar. D'accord? Donc je refais une parenthèse. C'est-à-dire, celui qui ne fait pas tout ça, mais il passe à côté du Ramadan, il fait attention. Et le Prophète, et voilà, il y a ce hadith. Et deuxième amin, ça concerne, c'est du classique ça, tout le monde connaît ce hadith. C'est celui qui a un parent ou deux, et il n'a pas obtenu leur agrément de leur vivant. Il n'a pas fait qadar, il n'a pas été proche d'eux, il n'a pas fait birrul walidain ihsan, il n'a pas bien agi avec eux. Et là, le Prophète a également prononcé, il a acquiescé, il a dit Amin pour la malédiction de cette personne. Donc ça fait réfléchir, faisons très attention. Il y a des fois, on se dit que oui, mes parents sont compliqués. Après, il y en a qui utilisent même des termes de psychologie, ils sont manipulateurs, pervers narcissiques, ils sont comme ça. Faisons attention, parce qu'il y a une lecture moderne qui est faite par des psychologues, par des psychobricoleurs, et ainsi de suite, mais ce sont des termes qui ne sont pas compatibles avec notre dîme, nos valeurs. Regardez ceux qui mettent leurs parents dans des maisons de retraite, dans des hospices, qui les laissent mourir, il ne va même pas les rendre visite, et on appelle monsieur un tel, vos parents sont morts. Ce n'est pas avec cette mentalité-là qu'on va décrypter et comprendre le monde, ce n'est pas possible ça. Nous on a des valeurs qui sont très fortes. L'importance des parents, ça c'est capital. Et c'est le Coran, quand Allah Rabbul Izzah parle du tawhid, Allah parle de l'obéissance envers les parents juste après. C'est qu'on dit qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Ça veut dire quoi? Allah a décrété qu'on ne doit adorer que lui. Wa bil walidayni ihsana, de bien agir envers les parents. Et souvent il y a le tawhid et juste après, beaucoup de versets comme ça, où il y a l'obéissance envers les parents. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc je clôture ce sujet. Donc c'est les jeunes et les moins jeunes qui ont la chance d'avoir encore les parents ou un des deux qui sont vivants. Faisons attention de ne pas se laisser embarquer par ces discours qui disent que voilà, faut prendre des distances parce que et tout. Non, on fixe les limites, on dialogue, on explique, on exprime nos attentes et ce qui serait compatible avec la vie de couple et ainsi de suite, mais ne jamais manquer de respect, ne jamais prendre de distance, ne jamais leur tourner le dos. Non, ça c'est inacceptable. Parce que quand Allah les reprend, après il y a des remords, et les remords, il n'y a rien qui peut rattraper ça. D'accord ? Qu'Allah nous donne tawfiq de mettre en application et pardonne le manquement. Et s'il y a eu des manquements pour chacun d'entre nous envers les parents qui sont vivants, je pense qu'il faut aller leur demander des excuses. Demander à Allah pardon, c'est bien, mais s'ils sont vivants, leur demander pardon. D'accord ? Et certains savants, rahimahumullah, disent que le droit minimum d'un parent, c'est que tu fasses doua pour eux 5 fois par jour. Rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghira. Ça, c'est le doua le plus beau. 5 fois par jour, minimum. C'est-à-dire après chaque salat, tu fais doua pour toi, pour ta carrière, pour ton travail, pour tes enfants, oui, mais pour tes parents. Qu'il soit vivant ou qu'il soit déjà de l'akhir, décédé. On va s'arrêter là. Puis il y avait l'autre verset qui est sur la page d'en face, on regardera pour une autre fois. C'est un verset également qui nous interpelle. Wala taqrabu zina, le fameux wala taqrabu zina, ne vous approchez pas de l'adultère. Et Allah seul sait comment est-ce que ce verset est sensible et important, parce que nous vivons une époque sensible. Ce verset est important parce que nous vivons une époque sensible, une époque où il y a une telle... Ils appellent ça une liberté des consciences. Moi, j'appelle ça du libertinage. C'est même pas de liberté de conscience. Il n'y a plus de limite. Ou un homme qui trompe sa femme, on ne condamne pas, et vice versa. Ou les pratiques, excusez-moi, sexuelles vont dans des sens qu'on ne pouvait pas imaginer avant. Et on considère que ça fait partie de la liberté de l'homme, ainsi de suite. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pour ça, me dit Allah Rabbul Izzah, wala taqrabu azina, ne vous approchez pas de l'adultère. Après, il y a une règle humaine aussi, c'est un homme ne trompe pas sa femme. Ça, il n'y a même pas de religion pour ça. Même il y a des gens qui ne croient pas en Dieu, mais la fidélité au sein du couple, c'est important. C'est une promesse, d'accord ? Mais nous, on a cette approche et cette fidélité, mais au-delà de ça, on a la conviction qu'Allah nous voit, Allah nous entend, Allah, subhanallah, on voit des malaïkas qui écrivent et ainsi de suite. Donc, c'est pas parce que là, je suis bien avec tout le monde, mais quand je vais en voyage d'affaires, je vais à Paris, je vais en Thaïlande pour faire mes affaires dans les pays asiatiques et tout, où il y a un peu plus de olé olé, ben attention, c'est pas parce que madame ne me voit pas, c'est pas une question de madame voit ou voit pas, c'est qu'Allah te voit. Donc ça c'est des péchés, on est dans les kabaïra de nous, dans les péchés majeurs. Et le Prophète nous a informé, justement on a lu le surat Banu Israël qui parle du mi'raj, voyage nocturne. Et le Prophète, lorsqu'il a visité l'enfer, il a vu l'enfer, il a vu la punition des personnes qui commettaient l'adultère dans ce dunya. C'est des descriptions qu'on n'a pas envie de citer, c'est des descriptions qui sont... Voilà, très poignant. Donc faisons attention et ne nous laissons pas embarquer par le concept du concubinage. Ça aussi, ça fait partie d'un mode de vie moderne. où on explique, on dit que non, ben, on peut vivre ensemble, il n'y a pas besoin de mariage, concubinage, jusqu'à ce qu'un jour on se décide. Mais jusqu'à ce qu'un jour on se décide, entre-temps, le terme concubinage n'existe pas en islam, c'est du zina. Et ça, c'est pas possible. Tu peux pas être de l'zina et puis tu viens à la salat, tu pries Dieu, tu fais doua et tu retournes de l'zina. Ça, c'est pas une vie de croyance. Qu'Allah nous protège nos proches, nos enfants, et qu'Allah nous permet de nous conformer aux ordres du Coran. On va s'arrêter là. On devait compléter la sourate les PSL de la Baqara, mais on gardera ça, Inch'Allah, pour une fois. Tawfiq illa billah. N'oublions pas, donc, ce soir, Laylatul Jum'a. La veille du Jum'a, demain c'est le deuxième Jum'a du mois de Ramadan. Essayons de consacrer un peu plus de temps dans le tahajjud ce soir. Qiyamul Layl, Inch'Allah. N'oublions pas demain, parmi les sunnan du Yom al-Jum'a, un bain le matin et lire le maximum de salat ala nabi. Les salutations sont passées à sallam et de venir tôt dans la mesure du possible. Hein, pour nos horaires de travail et tout, on essaie de venir tôt à la salat de Jum'a. Jazakumullah khair. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.